Méthode et outils de la résolution de problèmes. Article basé sur l'ouvrage Résolution de problèmes, méthode, outils, retour d'expérience par Daniel Crépin, François Pernin et René Robin. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Telle est la philosophie qui sous-tend la plupart des méthodes managériales actuelles et qui est au cœur de la démarche des trois spécialistes dans cette approche spécifique d'un aspect déjà évoqué de la gestion Lean, entre autres, la compréhension, l'analyse et la résolution des problèmes simples ou complexes auxquels peut être confronté le leader d'entreprise ou d'équipe. Il s'agit donc de synthétiser les outils disponibles, de réaffirmer la validité des outils de première génération et de développer l'utilisation des outils de seconde génération, et ce, hors du cadre industriel, mais en les adaptant à tous les secteurs, y compris celui du service médical. François Pernin, notamment, chirurgien et ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, étant spécialisé en management et en questions sociales et politiques en cadre hospitalier et associatif. Présentation des concepts clés. TQM, modèle d'excellence. Le TQM, Total Quality Management, initié par Toyota, et à l'origine de l'approche Lean en management, reste une stratégie globale solide et un modèle d'excellence puisqu'il prend en compte l'ensemble des 9 critères d'excellence de la grille d'évaluation type, soit 5 facteurs de performance d'une entreprise et 4 effets sur l'ensemble des résultats mesurables, le leadership, la stratégie, le personnel, les ressources humaines et matérielles, les processus et produits ou services finis, la satisfaction client, le bien-être et la motivation du personnel, l'apport communautaire ou sociétal, la rentabilité et les bénéfices, résultats financiers. Problème, problème simple, problème complexe. Un problème peut être défini comme un écart entre ce qui est et ce qui devrait ou pourrait être, c'est-à-dire soit comme un dysfonctionnement, soit comme un besoin ou une opportunité d'amélioration. La notion de simple ou complexe est elle-même fluctuante, mais on considérera généralement comme simple une situation identifiable, mesurable et possible à résoudre avec une mesure adaptée, et complexe, une situation dont l'origine n'est pas immédiatement clairement définie ou dont les causes sont multiples. La résolution de problèmes au management s'inscrit toujours dans une perspective de système qui, lui-même, peut être défini comme un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisée en fonction d'une finalité, Joël de René. Pour Jean-Louis Lemoigne, un système vivant et organisé répond aux caractéristiques suivantes. Il s'intègre à un environnement et interagit avec lui. Il se définit par sa finalité, il structure et organise ses interactions de manière identifiable et répétée et peut donc évoluer mais sans perdre son identité. Un problème est donc généralement résolu par un système si aucun n'est mis en place ou par l'ajustement des éléments du système où il survient. Notion de projet et processus. Le processus est un élément du système et pourrait se définir de la même façon, mais à l'échelle inférieure, c'est-à-dire un ensemble d'éléments concrets structurés et répétés en vue d'une finalité s'intégrant dans le système. Le projet, quant à lui, harmonise les notions de processus et de finalité en les organisant, mais de façon occasionnelle. Un projet est un processus exceptionnel visant à un objectif précis et limité. Il comporte 3 phases. Données d'entrée, objectifs et contraintes, moyens à disposition, environnement, processus, planification, exécution, contrôle, résultats, nouveaux produits ou services, réussite ou échec, leçons à tirer. Le facteur humain. Enfin, il convient, au-delà du jargon et des données quantifiables, de tenir compte du triade humain dans la démarche de résolution de problèmes. Le terme est emprunté à Aristote et rappelle les 3 dimensions de l'individu pensant. Il est une tête, pensée rationnelle et spirituelle, une main, capacité d'agir, pensée active, et un cœur, sentiments, émotions, perception personnelle du monde et de soi. Le défaut de la plupart des systèmes de management est leur déshumanisation au sens où il n'est tenu compte que d'un, voire deux aspects de cette composition, ce qui génère à terme de nouveaux problèmes dépassant la simple non-réalisation des objectifs financiers, insatisfaction, perte de motivation, baisse des résultats, turnover, burn-out. Ce triadre pourtant, intégré à la perception de l'entreprise, peut également illustrer la nature triple des problèmes que l'on peine parfois à identifier, problèmes de tête, psychosocio-organisationnels, problèmes dans la rationalité ou l'efficacité des processus, problèmes de cœur, problèmes de sens, de valeur, de but, de gratification autre que matérielle, problèmes de main, problèmes techniques, problèmes de ressources ou moyens. Les sept étapes de la résolution des problèmes. Étape 1. Identifier ou choisir un problème. Déterminer l'objectif de sa résolution. Étape 2. Définir clairement le problème. Recueillir et structurer les données afférentes au problème. Étape 3. Rechercher et valider les causes du problème. Si nécessaire, redéfinir l'objectif. Étape 4. Rechercher, puis choisir une solution. Étape 5. Planifier et mettre en œuvre la solution. Étape 6. Évaluer les effets de la solution. Étape 7. Standardiser, systématiser la solution. Rechercher les extensions possibles. Les outils de première génération. La MSP. Étape 1 à 6. Quel que soit le secteur de production, industriel, tertiaire, administratif, la permanence, l'identique au sens strict n'existe pas. La maîtrise statistique des processus consiste à schématiser sous forme de graphique l'ensemble des éléments constitutifs des processus afin de monitorer les causes communes ou bruits, variations prévisibles et normales dues à l'impermanence des situations, comme l'usure ou la qualité du matériel, ajustable, des causes spéciales ou signales, événements inhabituels, identifiables et évitables, comme le non-respect d'une procédure, un accident, une panne, des retards récurrents de membres du personnel, etc., éliminables. L'objectif de la MSP est donc de passer d'un processus aléatoire à un processus stable en améliorant au maximum les causes communes et en éliminant les causes spéciales. Le brainstorming, étape 1, 3, 4, 7. Concept incontournable en gestion d'entreprise toujours valide, le brainstorming de brain, cerveau, et storm, orage, tempête, consiste en une libération des idées en groupe, sans jugement de valeur, ni de pertinence sur un sujet précis et défini, avant de procéder à leur tri et à leur évaluation au niveau du management, qui permet souvent de stimuler la créativité et l'innovation dans une période de stagnation. Le QQOQCP, c'est étape 1, 2, 5, 7. L'acronyme est celui d'une suite de questions permettant de définir clairement une situation, problème, objectif, mise en place d'une solution ou extension. Quoi ? Quel produit, procédure, défaut ? Qui ? Intervenant concerné ? Où ? À quelle étape du processus ? Dans quel service ? Quand ? Survenance, origine du problème ? Comment ? Origine de l'identification du problème ? Éléments constitutifs concrets ? Pourquoi ? Importance de la résolution de l'objectif. Attention ! La question « comment et pourquoi » à ce stade ne relève pas de la recherche des causes ou des solutions, mais se rapporte toujours au sujet choisi. On peut également ajouter à ces questions « combien » de temps, d'argent, de passion, etc. sont perdus ou pourraient être gagnés et combien d'éléments en pourcentage du total sont concernés par le problème. La question « pourquoi » dans la perspective des causes sera, elle, poser 5 fois, méthode dite de 5P, pour parvenir à la cause racine d'une formulation, comme détaillé dans notre précédent article sur le Kaizen. L'analyse est, n'est pas, étape 2, 3. Il s'agit, à la suite du QQOQCP, dans l'analyse du problème et la pré-recherche des causes, de tenir compte des deux aspects d'un constat, quel qu'il soit. Par exemple, qui intervient, où est concerné, mais qui ne l'est pas, quand survient généralement telle difficulté, mais aussi quand elle ne se produit pas alors que les circonstances sont similaires, ou encore combien d'éléments sont dysfonctionnels, mais également combien pourraient l'être et ne le sont pas. Cela permet d'éviter les évidences et la facilité est de vraiment resserrer la compréhension du problème ou sujet d'amélioration. Les diagrammes de description de processus, étapes 2, 3, 6, 7. Cartographier précisément les processus soumis à une démarche d'amélioration continue permet de segmenter l'ensemble des gestes et éléments intervenant dans le processus en cause et ainsi d'identifier ce qui peut être amélioré, puis d'ajuster, corriger et modifier avec précision les points sujets à amélioration. Les deux cartographies les plus courantes sont de type logigramme simple ou en flux fonctionnel croisé complexe. Le logigramme consiste à la représentation schématisée et linéaire des différentes étapes qui constituent le processus avec un début et une fin et un résultat attendu. Le diagramme en flux fonctionnel croisé, plus adapté au processus complexe et faisant intervenir divers services et personnes, décompose les parties prenantes et les responsabilités de chacun, ainsi que l'ensemble des outputs, éléments de sortie et résultats attendus. Le diagramme en flux fonctionnel croisé peut intégrer plusieurs logigrammes. Pour prendre un exemple simple, étape existante, réunir les ingrédients, préparer la pâte, ajouter la garniture, placer la pizza au four. Le four est-il chaud? Oui. Cuire 20 minutes, sortir la pizza du four. Le four est-il chaud? Non. Préchauffer le four à effectuer plus tôt et préparer la pâte. Ajouter la garniture, placer la pizza au four, cuire 20 minutes, sortir la pizza du four. Objectif, obtenir une pizza pouvant être mangée. Point d'amélioration, étape manquante, préchauffer le four à effectuer plus tôt. Logigramme, processus préparation d'une pizza, début, fin, étape, boîte de questionnement. Diagramme en flux fonctionnel croisé, vente d'une pizza. Client, hôtesse, caisse et service, pizzaiolo, responsable achat, sont les parties prenantes. Commander une pizza, payer, encaisser, remettre la pizza, emporter la pizza. Hôtesse, caisse et service, noter commande, transmettre en cuisine, pizzaiolo, préparer la pizza, logigramme, responsable achat, gestion des stocks et des courses, ingrédients. Client, commander une pizza, payer, encaisser, remettre la pizza, emporter la pizza. La carte d'événement consistera en l'ajout des barrières possibles, éléments incompris et facteurs humains au diagramme. Ces outils peuvent apparaître complexes, mais permettent une réelle clarification des situations et l'identification des causes communes et des causes spéciales. Le diagramme d'Ishikawa, étape 3-4. Il permet d'identifier les causes profondes d'un effet donné, problème à résoudre ou opportunité à développer, autour des 5 M que sont la matière, le milieu, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre. Cet outil a été traité plus en détail dans notre précédent article sur le Kaizen et ses outils d'analyse. Matière, cause, méthode, milieu, cause, raison, cause, main-d'œuvre, cause, matériel, machine, cause, effet. Le CEDAC, étape 3, 4, 5, 6. La méthode Causes and Effects Diagram with Addition of Cards est une extension du diagramme d'Ishikawa avec ajout de cases solutions possibles au sein du diagramme et développement de sa partie effet. Cause matière, milieu, matériel, machine. Retard, temps de séchage plus long, méconnaissance du produit, mauvaise estimation, durée rendez-vous, arrivée tardive le matin, démotivation, non-respect du cycle biologique, formation, réorganisation planning, gratification, recul heure premier rendez-vous, effet X retard sur période Y, objectif réduire de 20% sur période Z, en cours de test, en préparation, en attente à creuser. Les feuilles de relevé, étapes 1, 2, 6, 7. Il s'agit simplement d'établir une fiche type des effets attendus, résultats, de chaque procédure ou produit fini et de systématiser la vérification sous forme de checklist, par exemple en cabinet, temps d'attente, délai de rendez-vous, durée de vie des soins temporaires, intensité et durée de la douleur, afin de pouvoir mesurer et surveiller la stabilité des processus et repérer les écarts significatifs, causes spéciales. Le diagramme de Pareto, étape 1, 2, 6. Il permet de hiérarchiser les causes multiples d'un problème en se fondant sur le principe de Pareto, dit 80-20, qui postule que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est une étape simple de schématisation d'une situation et un outil clair de suivi des effets des changements intervenus. Formellement, il a également été traité dans notre article précédemment cité sur le Kaizen et ses outils d'analyse. Sur une échelle de 0 à 30, Pareto, motif insatisfaction patient, pansement défectueux 5, accueil 11, rendez-vous trop loin 23, retard 24, douleur 10, tarif 4. Le diagramme de corrélation, étape 2, 6, 7. Il vise à évaluer les relations entre deux données, en posant en abscisse et en ordonnée de variables, puis en reportant les valeurs obtenues sur l'ensemble du diagramme. Un nuage montant ou descendant indiquera une corrélation. Y augmente ou diminue lorsque X augmente ou diminue. Attention toutefois à ne pas verser dans la surinterprétation. Une corrélation n'indique pas nécessairement une relation de cause à effet entre les deux données. Une même cause peut par exemple être à l'origine des deux données, qui sont alors de conséquences. Les indicateurs de performance et tableau de bord, étape 1, 2, 6, 7. Les tableaux de bord sont des outils de pilotage permettant au management d'avoir une vision claire de la situation étudiée, les indicateurs de son évolution et des objectifs à atteindre. Il s'agit en général de représenter ces éléments sous forme de graphiques linéaires chiffrés, aussi simples et clairs que possible. Outre une fonction de suivi, ces tableaux de bord peuvent faire apparaître des problèmes ignorés jusque-là s'ils sont bien interprétés. Dans l'exemple ci-dessous, ce graphique représente le nombre de pièces défectueuses par jour de production d'une usine. Taux de pièces défectueuses en pourcentage, la valeur se met entre 0,6 et 3. L'interprétation correcte n'est pas de constater que la fabrication semble plus efficace certains jours, ce qui entraînerait une concentration sur les employés présents ces jours-là ou autres considérations hors propos. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il est inutile de paniquer pour un taux de 2,6% ou de se féliciter d'un taux de 0,3%, puisque ces variations sont constantes et régulières et qu'elles proviennent donc non pas d'un accident, cause spéciale, mais du processus lui-même qui est sans doute à revoir intégralement pour baisser cette moyenne de 1,8%, toutefois acceptable. Le plan d'action, étape 5-7. Il consiste en un tableau reprenant les points essentiels du projet de solution tâche par tâche et permettant de visualiser en temps réel son déroulement et son suivi. Colonne 1, action à mener. Colonne 2, résultats concrets attendus de chaque action. Colonne 3, responsable. Colonne 4, tâches liées à l'action. Colonne 5, ressources prévues, colonne 6, planning, colonne 7, données de contrôle. Action 1. Mener une enquête de satisfaction auprès des employés. Résultat attendu de l'action, connaissance précise et hiérarchisée des besoins d'amélioration de l'organisation, tels que vus par les employés, responsables, BH. Tâche 1.1. Choisir un consultant pour concevoir l'enquête. 1.2. Conduire l'enquête et produire un rapport. Ressources 2 fois demi-journée de BH. Budget consultant 657 000 euros. Les matrices de décision et d'incidence. De façon générale, une matrice est un tableau qui croise des facteurs présents dans au moins deux séries d'outils. Un diagramme matriciel est simplement le condensé de l'ensemble des outils retenus et utilisés dans un projet précis, depuis sa définition jusqu'à sa systématisation. Une matrice dite de décision peut être envisagée pour chaque étape afin de déterminer les outils pertinents dans chaque cas précis, un diagramme d'incidence étant le condensé final, pouvant être lu horizontalement, quels outils pour une étape, ou verticalement, quelles utilités pour chaque outil, permettant de sélectionner la meilleure méthode de conduite du projet. Les outils de deuxième génération, concept et application de sémantique générale. Les outils dits de deuxième génération n'ont pas vocation à remplacer ceux de la première génération, qui seraient dépassés, mais bien à les compléter en s'attachant à une dimension souvent manquante ou insuffisamment prise en compte de la résolution de problèmes, le langage. Les outils de première génération, en effet, jonglent majoritairement avec des données chiffrées, mais ces données peuvent s'avérer faussées si un soin particulier n'est pas apporté à leur objet exact et à leur objectif précis. La sémantique générale est l'étude du rapport entre mots et concepts, c'est-à-dire une discipline qui s'intéresse à notre modélisation et à notre perception du monde et à notre façon de communiquer, de verbaliser ces conceptions. C'est particulièrement pertinent en management où la collecte, l'interprétation et la restitution des données est primordiale au succès d'un projet et où la communication est un des piliers d'efficacité les plus importants. Avoir conscience de l'existence et de la validité des concepts de sémantique générale, comme par exemple le phénomène d'abstraction ou le court-circuitage de la réalité résumée ci-dessous, c'est pouvoir maîtriser sa communication, éviter les pièges principaux du langage, généralisation, manque de clarté, surinfluence de l'affect, manichéisme, et être en mesure de formuler avec recul et de façon consciente des constats, objectifs, demandes et échanges clairs, précis et factuels, prérequis fondamental de la résolution de problèmes, sans lequel tous les diagrammes et méthodes du monde ne seront d'aucun secours. L'échelle des niveaux d'abstraction, partie progressive de caractéristiques, niveau silencieux, objet, événement, niveau verbal, ma vache Bessie, vache Lorraine, vache, mammifère herbivore, mammifère, etc. 1. Données expérience réelle. 2. Données expérience que nous sélectionnons. 3. Sens que nous attribuons à ces données et expérience. 4. Hypothèse. 5. Conditions. 6. Croyances. 7. Action. Le diagramme des affinités, méthode Kaji. La méthode Kaji de Kawakita Jiro, son créateur, est une émulation en équipe visant à définir et hiérarchiser les causes d'un problème, exemple 1, ou les opportunités d'amélioration, exemple 2. C'est un bon soutien pour le brainstorming, notamment, permettant d'organiser celui-ci et d'en visualiser immédiatement les résultats. Formellement, il va consister en la notation sur des fiches individuelles d'une ou plusieurs raisons envisagées individuellement par chaque participant, puis de regrouper sur un grand panneau ces affirmations par affinité jusqu'à n'avoir plus que 3 ou 4 grands thèmes regroupant l'ensemble des fiches. Les fiches non classables dans un de ces grands thèmes, loup solitaire, seront traitées avec une attention particulière jusqu'à soit être reformulées, soit faire l'objet d'un traitement à part pour en déterminer les causes racines. Le titrage de chaque sous-thème, puis de chaque thème et la phrase finale, reprenant en tête du panneau un condensé incluant les trois aspects, permet une clarification du sujet et surtout de mettre tous les participants au même niveau de compréhension et d'analyse du problème. Le diagramme des interrelations. Le diagramme d'interrelation est, pour simplifier, un diagramme d'affinité dont les fiches seront centrées non sur une diversité de facteurs, mais sur les causes racines des mêmes facteurs. Il peut permettre, par exemple, de collecter et de hiérarchiser les résultats d'un diagramme d'Ishikawa, d'un SEDAC ou d'une session de 5P réalisée en commun. Le diagramme en arbre. Il s'agit d'appliquer la méthode des affinités en se fondant sur un QQO-QCP sur le thème retenu, puis d'y ajouter une dimension analytique et qualitative en croisant les fiches déployées avec des notions de faisabilité, efficacité, priorité, visibilité des résultats. Le diagramme matriciel. Le diagramme matriciel combine les caractéristiques et la logique de la matrice d'incidence et celle du diagramme des affinités, mais en formalisant les recherches de solutions et thèmes plutôt que les outils et en ajoutant, là encore, une dimension appréciative sur la pertinence de la relation entre les différents facteurs. D'autres outils de deuxième génération, comme le diagramme d'analyse des données matricielles ou le diagramme sagittal, plus complexes et recoupant plus de facteurs, peuvent également venir supporter l'ensemble des outils de première génération. Chacun de ces outils peut évidemment entraîner une adaptation personnelle cohérente avec les besoins et défis spécifiques du cabinet. Un outil intellectuel doit cependant être considéré au même titre qu'un outil matériel. On n'utilise pas un outil lorsqu'on n'a pas été efficacement formé à son utilisation, au risque de mal l'utiliser, avec un résultat au mieux nul, au pire négatif. Deux méthodes de déploiement de deuxième génération, le QFD. Le QFD, Quality Function Deployment, ou fonction de déploiement de la qualité, est un modèle structuré qui va permettre de relier la voix du client ou patient, recueillie systématiquement, exigence en amont, satisfaction en aval, avec les moyens et processus disponibles afin de prioriser et hiérarchiser les éléments manquants à revoir ou modifier. Exemple de QFD patient. Moyens et processus, CTQ, obtenir des informations sur la pose d'implant, nombre de personnel pouvant prendre en charge le standard, formation à l'accueil téléphonique, accessibilité aux informations pratiques, écran, fiches, grilles ou support de collecte des infos patients durant un appel. Les réponses aux questions sont connues de la personne en charge, correctes et fiables. Les éventuelles réponses inconnues sont recherchées et fournies dans un délai acceptable. Le patient n'a pas attendu plus de 3 sonneries et n'a pas été mis en attente ou très brièvement. Le patient a été appelé par son nom, a laissé ses coordonnées, a pris rendez-vous, a plaisanté, a donné des informations personnelles, n'a pas été interrompu. L'oshinkanri. Il ne peut exister de sommet coupé de sa base. Et c'est l'interaction permanente entre la hiérarchie et le terrain qui va permettre l'amélioration continue et pérenne des processus et donc des résultats. Ce concept de Shinkanri peut être résumé en deux diagrammes, l'un concernant le rôle du dirigeant, l'autre l'interaction entre la base et le sommet, aussi désigné processus en catchball, suivant le mouvement d'une balle de baseball rebondissant de haut en bas. Le pourquoi ? Développer une vision, définir une feuille de route et des jalons, finaliser le cadre stratégique de la société. Le quoi? Développer un plan à long terme et des objectifs. Le comment? Créer des thématiques stratégiques, identifier des priorités stratégiques, développer la politique, déployer la politique, évaluer les progrès et communiquer les résultats. Processus en chicanerie de la politique de l'entreprise, direction. Direction, équipe de terrain. Équipe de terrain, générer des idées, fournir des données chiffrées et factuelles. Direction, développer une version zéro de la politique, déployer la version zéro. Équipe de terrain, rapport et retour. Direction, développer la version finale de la politique, fournir le feedback. Équipe de terrain, PDCA. Processus catchball. Ces deux méthodes de déploiement conceptualisées et leurs outils statistiques sont entre autres fondamentales dans l'approche Lean Six Sigma que nous évoquions plus en détail dans un précédent article. Questions pratiques. En conclusion, comme pour toutes les méthodes de management ou de changement de paradigme en entreprise, il existe plusieurs dangers pouvant saper l'efficacité des démarches entreprises, la plupart nées de facteurs humains et d'une carence dans l'engagement ou la persévérance de la direction. Les auteurs relèvent de leur propre expérience en tant que consultants en entreprise et notamment dans le secteur médical peu formé à cet aspect. Certains comportements et obstacles typiques à l'implémentation et à l'efficacité à long terme de ces méthodes, écueils liés à l'implémentation durable de ces méthodes, refus d'accréditer l'existence même de problèmes autres qu'extérieurs dans l'entreprise ou le service, impatience et exigence de résultats immédiats, absence de passage à l'acte concret une fois le projet défini, le montage du projet de résolution étant considéré comme un exercice à part entière, application du plan d'action par les collaborateurs ou employés n'ayant pas participé à son élaboration et donc ne s'étant pas approprié la stratégie et ne se sentant pas investi ou concerné par le projet qui n'est qu'un nouvel ordre de la direction venant lui compliquer la tâche. Écueil lié à l'animation du groupe de travail, animateur du groupe de travail lui-même novice ou insuffisamment formé à ses méthodes, animateur partisan, c'est-à-dire lui-même trop concerné par le problème ou force de proposition pour d'éventuelles solutions, donc partial, donc manipulant la méthode pour faire adopter des idées personnelles, animateur non formé à une communication adaptée et réfléchie, trop autoritaire ou cassant, impatient, paternaliste, etc.